Genrée, l'émission pour déranger. Une émission féministe, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois, de 18h30 à 20h sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, Dégenré avec Nicolène, Marina et à la technique Amélia. Et ce soir, nous allons parler des violences sexuelles.
Oui, on a décidé en fait de faire une émission sur les violences sexuelles aujourd'hui, qui va prendre une forme un peu originale. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une émission avec des chiffres, avec des bouquins de sociologie, faire un peu un historique des violences sexuelles. Mais on a choisi autre chose. C'est-à-dire qu'on a choisi de vous faire écouter un témoignage. Alors, en fait, j'ai fait un enregistrement il y a quelque temps où je raconte un peu mon parcours, les violences sexuelles que j'ai pu vivre et mes proches aussi. Et en fait, on avait envie de vous faire partager ça parce que c'est aussi un sujet dont on ne sait pas trop comment parler parfois. C'est-à-dire que ce qu'on vous donne à écouter ce soir, c'est une parole qui est rarement entendue, qui est rarement écoutée, qui n'a pas lieu, qui fait pas une vérité ou qui n'impose pas quelque chose, mais plutôt un témoignage que j'avais envie de vous confier à vous, surtout aux auditrices. Et voilà, et en fait, je suis très émue de partager ça avec vous ce soir. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que je suis très contente. Et que j'ai envie d'être fière de vous raconter cette histoire qu'est la mienne.
J'avais envie de raconter mon histoire du viol. Parce qu'on entend souvent parler de viol, mais c'est jamais quelqu'un, c'est jamais proche, c'est jamais... C'est toujours l'horreur dans le fond d'un couloir. Et en fait, moi, j'étais assez persuadée jusqu'à il n'y a pas très longtemps que j'avais jamais été violée, au moins dans le sens où on l'entend communément. Et ce qui est vrai, je ne pourrais pas porter plainte contre quelqu'un pour viol. Et voilà. Et en fait, j'ai découvert que toute ma sexualité était en fait extrêmement imprégnée du viol, en fait, que c'était assez central dans le vécu de ma sexualité. Et j'ai découvert, pas du tout parce que j'étais dans une déprime ou à la recherche de je sais pas quoi. Au contraire, l'année dernière, j'ai pris un moment pour moi, pour partir dans une recherche vis-à-vis de ma sexualité, vis-à-vis de mes relations, expérimenter, et c'était quelque chose de très joyeux. J'étais très contente d'essayer de découvrir des nouveaux plaisirs, d'ouvrir différents horizons. Et donc, étant cette période plutôt où j'étais plutôt enthousiaste, et ben, j'ai découvert quand même vachement de souffrance aussi, et vachement de douleur, et ça m'a finalement permis de beaucoup mieux comprendre la sexualité de beaucoup de femmes. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de... Ouais, que je parle de mon histoire. Parce que finalement, combien de nous prenons vraiment un moment pour lire, pour expérimenter, pour se poser des questions, pour réfléchir, rechercher, essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue de notre sexualité. Finalement, on n'en prend pas vraiment parce qu'on n'a pas le temps, pas l'envie, pas, on voit pas l'intérêt. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. J'ai l'impression que en France, comme dans d'autres pays sûrement, la sexualité féminine, elle prend, elle a vraiment au cœur de son vécu l'histoire du viol. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais cette espèce de phobie du viol en moi, enfin de espèce de peur incessante, et puis cette menace, comme si je savais qu'un jour ou l'autre j'allais être violée. Alors je me suis... Et à la fois, c'est drôle parce que j'avais cette peur et puis ça me mettait très en colère. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de louche aussi, ce truc de se dire « Ouais, ça va peut-être m'arriver, mais c'est quelque chose qui n'est pas structurel, la société qui n'est pas profondément ancrée. » C'est un type qui te sert dans un coin une fois où t'as été un peu imprudente, t'es rentrée toute seule la nuit, des choses comme ça. Et en fait, je me suis intéressée un peu déjà à l'histoire de ma famille. Parce que mon histoire du viol, je pense pas qu'elle commence à moi. Alors, dans ma généalogie, on peut voir jusqu'à mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma grand-mère. Alors la mère de ma grand-mère, c'était une femme qui habitait dans un village et qui est tombée enceinte mystérieusement et qui a donné ma grand-mère, donc elle n'était pas mariée. On pense qu'elle a subi un viol collectif de la part de garçons du village parce qu'on sait à peu près comment étaient moquées les filles mères à l'époque et elle n'était pas moquée par les gens du village, donc il y avait une espèce... Ma grand-mère me raconte que autour de cette grossesse fâcheuse, il y a sûrement une espèce de drame, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, ça commence bien. Ensuite, ma grand-mère maternelle, donc elle était seule, enfant de fille-mère, sa mère est partie dans les mines de charbon... travaillée, elle s'est mariée avec un homme qui a refusé de prendre sa petite fille, donc ma grand-mère s'est retrouvée toute seule. Elle s'est mariée le plus vite possible, avec un homme qui, durant leurs 28 ans de mariage, puisqu'il était beaucoup plus vieux qu'elle, l'a forcée tous les soirs à faire l'amour. Donc on en a parlé il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais aimé ça. Jamais, pas une fois, en 28 ans, où toutes les nuits, il la violait. Donc c'est aussi sympathique. Et alors ma mère, comme ça je fais les générations, Ma mère, je me discutais avec elle parce que ça, c'est un truc que je conseille à tout le monde, c'est de poser la question. Parce que moi, j'ai encore la chance dans ma famille que je suis dans des bons rapports avec ma mère et ma grand-mère et elles sont pas pleines de morale ou je sais pas quoi. Et elles arrivent à m'en parler. Mais je suis pas sûre qu'on en parle, enfin, elles en parlent à tout le monde. C'est des choses que je sais parce que je leur ai posé la question. Donc moi, je conseille aux gens plutôt qu'il y ait cette espèce de tabou, parce qu'en général, ça existe, mais bien sûr c'est tabou, on n'en parle pas. Posez la question à vos mères, à vos tantes, à vos grand-mères, si elles ont été violées, et posez-la pas, ouais, toi t'as été violée, mais plutôt, ça t'est déjà arrivé de te faire agresser dans ton enfance, ou quelqu'un t'est touché, ou avec ton mari t'étais toujours d'accord, mais comment ça se passait, comment vous négociez. Parce que là, c'est là que surgissait l'histoire du viol, enfin... dans des choses très concrètes finalement qu'on peut très bien comprendre parce que je pense que nous aussi on les vit. Alors, donc ma mère, j'ai demandé, je lui ai dit, toi t'as été victime d'agression, etc. Et elle m'a dit, récemment, bah, justement après que je commence à réfléchir, je lui ai posé cette question-là, et elle m'a dit que vers l'âge de 8 ans, elle avait été agressée, touchée par... un ami de son père, enfin un ami de la famille, un voisin chez qui elle allait jouer et qui l'enfermait dans sa chambre. Enfin tout ça pour dire que j'ai mieux compris pourquoi je... Alors que personne n'avait serré dans un coin, j'avais cette impression que finalement ma sexualité était centrée autour du viol. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement j'hérite de la vision de la sexualité de mes mères. Déjà, en premier, et que la sexualité des femmes françaises des siècles derniers est complètement, totalement pensée pour le viol. C'est-à-dire que, bah, que ce soit le viol conjugal ou pas, la sexualité est pensée pour les hommes sans le consentement des femmes. Enfin, pour moi, ça me paraît évident. Et c'est pas parce que ça a été admis avant que c'était pas une énorme souffrance, voire pire, c'était une souffrance, je pense, vraiment énorme et structurelle. Et ce que je me dis, tiens, mais c'est fou. Parce qu'au début, je me suis dit, oh, dis donc, j'hérite de générations de femmes violées qui ont une sexualité où on leur a fait comprendre qu'elles étaient des objets pour le plaisir des hommes. Et après, je me suis dit, mais disons, je suis aussi descendante de générations de violeurs. C'est-à-dire que je me demande si quand même de mère en fille, de grand-mère en fille, on ne se transmet pas cette espèce de vécu tabou de femmes violées. Mais je me dis aussi que de père en fils et de grand-père en petit-fils, on se transmet cette expérience de violeur. Et je me suis dit, ah, c'est plus joli de se dire, ah, ma mère et ma grand-mère ont été violées, que dire, ah, mon père et mon grand-père étaient des violeurs. Mais à la fois, c'est pas l'un sans l'autre. Et moi, je me dis, combien d'entre nous se posent la question déjà si ses mères, grand-mères, etc. ont été violées? Mais surtout, se posent la question, est-ce que mes pères, grands-pères sont des violeurs et en quoi j'en hérite? Enfin, moi, je pense que c'est une question que beaucoup d'hommes devraient se poser parce que beaucoup se dédouanent. Et d'ailleurs, c'est pas leur faute spécialement, enfin, en tout cas au début. Ils disent, ah, mais moi je suis pas un violeur, j'ai violé personne, etc. Mais je pense qu'on a des héritages extrêmement lourds qu'il faut pas nier. Vraiment, quoi. Et dans sa propre famille, je pense que c'est vraiment très sain de voir les choses telles qu'elles sont.
Zeleno, ve zeleno, black. back amir tai vijata madhyana mendostaya ba ne devles ke chore hamle holari neri neri de holari neri neri de holari na 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 alo malo na 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 alo malo na 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 holari neri Holari neri neri de, holari na 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 na, alo malo na 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 na, na 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 ri na 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 na, zele no ve zele no play, ibag avir tai vijalta, madiana mendosta yaba, le devles ke chure hamle. Holari neri neri de, holari neri neri de, holari na 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 na, alo malo na 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 na, na 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 ri na 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 na.
Donc voilà, déjà du point de vue de l'héritage. Alors ensuite, c'est rigolo parce que autant les petits garçons, je pense, ont une espèce de truc où on se dit « Ah, la sécurité, ça va être chouette. » Enfin, ah, je joue avec mon pénis et des trucs sur la masturbation assez courantes sur les garçons. Enfin, ils ont un rapport assez... Ils se disent « La sexualité égale plaisir, en gros, pour eux. » Autant les petites filles, depuis le début... Enfin, moi, on m'a appris depuis le début, et encore, peut-être que c'était bien, à avoir peur de ma sexualité, des hommes... C'est-à-dire à me préserver, à pas rentrer tard le soir, et avec tout ce truc que de ma mère ou de mon père, de leur peur, où tu sens qu'il y a quelque chose de terrible qui peut arriver avec le chaperon rouge, ou bien sûr si on y va, et ben, on va rencontrer le loup. Enfin, depuis le début, depuis je pense, là où je commence à parler et à comprendre le monde, on me dit de faire attention parce que je vais être violée. Donc faire attention, c'est-à-dire rester chez moi, enfermée. Et en gros, si on essaye de devenir finalement les égales des petits garçons, c'est-à-dire pouvoir jouer dehors, se déplacer, faire des choses, appréhender le monde, voyager, etc., eh ben, on nous apprend que tu fais ça, mais si tu fais ça, tu vas être violée. Ah ouais, ça me fait rire, d'ailleurs, j'ai parlé avec une copine où je disais, voilà, je parlais de cette prégnance du viol, je crois, dans notre civilisation, et elle me disait, ah ben moi j'ai de la chance, j'ai pas été violée. Elle me dit, mais moi, depuis le début, j'ai toujours su que c'était une menace et j'ai jamais tenté le diable, c'est-à-dire je suis jamais sortie. C'est-à-dire qu'elle intègre la peur du viol au point de complètement déterminer ses comportements par rapport à ça. Ça veut dire de ne pas sortir le soir, de s'interdire de faire des choses, de ne pas pouvoir se promener seule. Ça me dit, je sors le soir, mais toujours quand il y a quelqu'un qui m'accompagne. Si personne ne m'accompagne, je ne sors pas. Donc c'est fou comment en fait cette histoire de la peur justifiée, hein, parce qu'il y a énormément de viols, du viol, finalement détermine complètement notre rapport au monde. Et alors moi qui petite voulais devenir écrivain et voyageur, je me rendais bien compte très tôt quoi, qu'être une femme, par exemple, pour être voyageuse, eh ben, c'est pas bien. Parce qu'une femme qui se promène, comme c'était quand même mon but, hein, me promener jusqu'à le bout du monde, c'était plutôt bien, eh ben, c'est une femme qui va s'exposer au viol. Ensuite, je me souviens d'un truc que m'a dit ma mère, sur son histoire, l'histoire de son agression. C'est que... elle croyait que ça l'avait pas traumatisée. Parce que, voilà, elle avait quand même pensé, rejeté, enfin, elle s'est dit c'est pas bien, enfin... Elle m'a dit plus tard que... Elle m'a dit que... Au bout de 25 ans, cette histoire était passée. Qu'elle en avait conscience, qu'elle avait l'impression que ça l'influait pas dans sa sexualité. Elle s'est rendue compte que fondamentalement, ça l'avait... marqué et traumatisé, et je pense que... Le fait que ça la marque et ça la traumatise, c'est aussi parce qu'il y a un effet de reflet dans toute la société sur le fait que cette expérience lui avait fait intégrer qu'elle était un objet de désir pour les hommes et non pas un sujet de désir. Et ça, je pense que c'est vraiment terrible. Une chose qu'on désire, mais pas un être qui va désirer d'autres êtres. Enfin bref, moi j'avais pas besoin de me faire agresser par un ami de mes parents pour l'intégrer aussi, et puis je vais vous le montrer comment. Par où commencer? L'adolescence, j'étais partie à l'enfance, on va dire à l'adolescence. Et ben, on va commencer par là. Et ben, la menace, donc cette chose horrible du viol qui pèse sur ma tête et dont il faut absolument que je me prévienne, et ben cette menace est devenue concrète. Concrète dans le regard des hommes, qui très clairement, ça se voit très bien, ont cette espèce, même si c'est de l'ordre du fantasme, cette espèce de façon de vous regarder comme un objet, qui montre très bien qu'ils ne le font pas parce que c'est interdit. Mais si, dans une situation où j'étais une salope, où ils étaient bourrés, ou alors avec un copain, eh bien ils le feraient. Alors il y a déjà ça. Ce truc-là de son corps est en train de se transformer, on est en train de devenir une femme. Et il y a le regard des hommes qui devient pressant. Qui vous font comprendre que vous allez devoir vous comporter aussi pour leur plaire comme l'objet de leur désir et pas comme un sujet de désir. D'ailleurs, on a tout un apprentissage aussi adolescente de comment faire pour plaire aux garçons, alors rester dans son coin, faire un petit sourire, pas les draguer, etc. Donc avec tous les conseils de nos magnifiques journaux, OK Podium et autres séries télévisées. Et puis, il y a aussi la menace réelle. Moi, entre 13 et 16 ans, j'ai failli à deux reprises me faire violer dans un coin, comme on peut le décrire. Alors la première fois, donc j'allais au collège, donc j'avais 13 ou 14 ans, et c'était un jour où je devais récupérer des papiers, il n'y avait personne dans le collège, il y avait juste un bureau ouvert, enfin, et c'était la fin d'un conseil de classe en fait, je devais aller à la fin d'un conseil de classe, et donc le collège était vide, c'était la fin de l'année, c'était en quatrième. Et je me souviens ce jour-là, donc je traverse un parc, je rentre dans le collège, j'étais avec un short, un t-shirt, enfin, normal, un jour d'été, beau et bien commencé, et un type qui rentre derrière moi. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, un type qui rentre, il avait sûrement 25-30 ans, il habillait normalement, je me dis, tiens, c'est peut-être un pion, ou... Enfin, il avait pas l'air d'un prof, mais ni d'un élève. Je me dis, ça doit être un pion ou quelque chose. Jusqu'au moment où je marche, et puis il me suivait. Donc je prends un itinéraire un peu biscornu pour voir s'il me suit. Et donc je me rends compte qu'il me suit, donc je me mets à courir. J'avais 13 ans, faut quand même préciser. Donc le type se met à courir derrière moi. Et je rentre dans un bâtiment où... il y avait justement ce conseil de classe, je savais pas où il était, parce que normalement je devais l'attendre à la sortie. Et donc ce type, à un moment je me retourne vaguement pour voir s'il est derrière moi, qui me faisait des gestes obscènes, en gros qui me faisait comprendre qu'il allait me serrer dans un coin et me violer. Et donc je me suis cachée dans un casier à cartable, et je me souviens de ce truc où j'étais recroquevillée dans ce casier à cartable et d'entendre ses pas dans ce bâtiment vide, arpenter en me cherchant, en me disant j'espère qu'il va pas me trouver. Bref. Et donc voilà, au bout d'un moment il est parti, j'ai dû attendre encore peut-être une demi-heure dans mon casier à cartable pour voir si c'était vraiment parti. Et puis à un moment, je m'en souviens, je savais pas où était le conseil de classe et Et j'entends une professeure qui crie à ce moment-là. Et en fait, le conseil de classe était à l'autre bout du bâtiment, donc j'y vais. Et je rentre dans cette pièce et je fonds en larmes. Donc ils me disent, Hélène, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc je dis, il y a un type qui m'a poursuivi. Et là, je m'en souviens qu'il y avait une fille de ma classe qui me regarde et qui me dit « Ah, mais oui, mais t'as vu comment t'étais habillée ? Comment t'es habillée ?» Parce que j'avais un short. Et je m'en souviens que j'avais une copine à ce moment-là qui m'a défendue. Elle dit à cette fille, bah quand on n'a rien d'intelligent à dire, on se tait. Et moi, les professeurs m'ont aidé, etc. Voilà, ils m'ont raccompagné chez moi, ils ont déposé une plainte parce que c'est tous les ans qu'il y a des rôdeurs autour des collèges pour violer les jeunes vierges. Enfin bref, donc voilà, même avant d'avoir connu un seul garçon, j'avais très bien compris le danger.
Vous êtes bien sûr Dégenrés sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors, moi, donc ces enregistrements que vous venez d'entendre, vraiment, je les trouve intéressants. Le mot est faible. Bon, déjà, je les trouve très, très émouvants, bien sûr, et vraiment pas du tout évident à entendre, pas facile, assez dur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la démarche qui y a derrière, qui y a dessus, qui y a avec. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que toi, Nicolène, là, qui a fait ces enregistrements, pour moi, t'as vraiment choisi de raconter ces histoires personnelles, et là, on est vraiment proche de cette phrase qui est très importante pour moi. C'est cette phrase de le personnel est politique. Et vraiment, cette phrase, pour moi, elle définit vraiment. Enfin, j'ai vraiment envie qu'elle définisse notre démarche féministe. Et là, on est là, quoi. On est vraiment dedans pour de vrai. C'est vrai que souvent, on ne sait pas vraiment comment parler des viols, des violences sexuelles, comment en parler, comment mener ces paroles-là publiquement et tout. Et on a envie de prendre des milliards de pincettes parce que c'est dur et on a envie de faire attention, de pas blesser, de pas faire violence et tout ça. Et on pourrait tenter d'en parler plus théoriquement, de finalement de laisser ça le plus extérieur possible à nous-mêmes. Et là, toi, tu as choisi de livrer ces histoires de façon assez brute, très brute, avec ce qui sort de toi, et puis aussi des larmes et des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est dur à entendre. Et moi, la première fois que j'ai écouté ces enregistrements, la semaine dernière, là, mais j'ai eu peur. J'ai eu la trouille. Je me suis dit, mais... Enfin, c'était hyper émouvant et tout ça. J'ai pleuré et tout. Mais aussi, j'ai vraiment eu peur de le diffuser, en fait. J'ai failli t'appeler et te dire, mais on diffuse pas ça. J'avais vraiment peur que ce soit trop violent. Je me disais, mais c'est ultra violent de raconter tout ça. Là, de donner ça en pâture aux auditrices et tout, mais j'avais vraiment peur. Et puis, je me suis imaginé une émission où on aurait parlé pendant une heure et demie de viol, très théoriquement. Mais je me suis dit, mais ça va être encore plus violent. Enfin, je me suis dit, finalement, c'est quoi qui est le plus violent? C'est d'entendre parler des viols, de violences ou de toutes les femmes d'en vivre et de le laisser cacher, de le laisser tabou. Alors ouais, moi je me suis dit bah cette forme de parole qui est concrète, qui est crue, et ben mais là au moins je me disais on jette le pavé dans la mare quoi. Et on balance les trucs et on va en faire quelque chose, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi faut pas rester avec ça quoi après. Mais vraiment, hier soir, je réécoutais tous les enregistrements et je savais pourquoi je suis féministe, quoi. Y a pas de souci. Je me suis dit, ok. Même si c'est une histoire perso et que tu racontes certaines formes de violence que d'autres femmes vivent autrement et qu'il existe d'autres formes de violence, qu'il existe plein de formes différentes de violence sexuelle, je trouve qu'il y a quand même vraiment une portée universelle là dans ce que tu racontes. Et parce qu'on a toujours tendance à penser nos vécus comme des problèmes perso, comme des histoires individuelles, alors qu'en fait c'est des histoires, enfin je veux dire c'est une histoire collective quoi, et on est toutes confrontées à ces violences. Alors voilà, pour moi ça a un vrai sens ce travail que t'as fait là de ces enregistrements, même s'ils sont durs et tout. Et là on vous propose de continuer à écouter ces enregistrements, donc les suites des histoires. Et à la fin, après, on va en reparler encore, et puis aussi on va parler de ce qu'on peut faire pour réagir face à ces violences, que ce soit individuellement ou collectivement.
Déjà petit, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite. L'engraineuse, mon catalogue me pousse vers l'exit, j'en deviens trop haineuse. Je me braque, ça m'exaspère, on dit que je suis teigneuse. Je me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là on me trouve capricieuse. Des mots ininterrompus à m'en donner des otites. Maudite, quand je m'attaque aux théories, je les discrédite. J'irrite le commun des mortels, je détériore telle une rebelle. J'avoue, je fous le bordel. J'tombe les cloisons, j'sors de mes gonds. Prends ton droit, serre-en toi. C'est facile de crier non. Inutile pour ça d'avoir des ronds. Si j'vois que je sature trop, j'lance mon juron. Non, nine, no, nada à la nuit.
niet, ayran ga naine, a la niet, no, nine, no, nada a la niet, ayran ga naine. Un peu moins de petite, faire 15, ouais. 16, défaire le monde, bourrage de crâne, j'en deviens obèse. J'exagère, mais je rejette toute forme de charentaise, ouais. Morale ou mentale, t'as beau tout faire pour qu'elle me plaise. Impossible, y'a pas moyen, assurément, t'as dû te bourrer de cible. Apparemment, toi et moi, on ne lit pas la même Bible, non. C'est inadmissible, pour ouais. ne pas dire indigestible, que ce soit moi la nuisible. Arrive, arrive l'époque innocente, soi-disant jeune, adolescente, où t'es inconsciente, où trop souvent j'entends dire, je suis une délinquante, non. Je suis une maniérée, ou que j'ai non. des manières inconvenantes, non. Nine, nada à la niette. Ayran ga naine, a la niet, no, nine, no, nada a la niet, ayran ga naine. Rarement dans les rangs, j'y détranspire à contre-courant. Je vous ai soupir, mais c'est déconcertant. Tu vois dans mon calme apparent de la nonchalance, dans ma distance, de l'ignorance. Mon indépendance, tu la transformes en arrogance. Ma résistance devient extravagance. Ma maladresse n'est qu'un politesse. Et tu vois dans ma gentillesse une marque de faiblesse. Conflit en conflit, faut pas craquer, même si anéanti, tu sembles ralenti. Même en sous-régime, je persévère. J'opère un changement d'atmosphère, c'est nécessaire. Réfractaire, je balance mes verres, je me défends. Trop arrogant, t'es trop insultant. En pensant que je te laisserai faire ma vie un enfer, prévoyant. Sans souci, ferme-moi ta prisonnière. Non, nine, no, nada à la niet. Ayran ga naine, à la niet. Non, nine, no, nada à la niet. Ayran ga naine, à la niet. Non, nine, no, nada à la niet. Ayran ga naine, à la niet. Non, nine, no, nada à la niet. Ayran ga naine, à la niet.
Je me souviens aussi de truc que donc au début de la puberté, donc mes parents se sont séparés et on allait voir mon père avec ma sœur. Et donc moi j'étais juste entre une petite fille et puis une ado. Et le matin, je m'en souviens, j'allais le voir dans son lit et on se faisait des câlins. J'en garde un drôle de souvenir. Le souvenir que j'en ai, c'est que bon, à cette période-là, je pense que dans un contexte de divorce très difficile, etc., et ben, j'essayais de remplacer ma mère. Parce que mon père était triste, etc. Et ce truc-là de qui fait toujours, malgré mes nos discussions et mon désaccord, il nous appelait. Ma mère, ma sœur et moi, mes femmes. Et déjà, il gardait un espèce de droit de nous toucher, nous contrôler physiquement. Mon père, par exemple, jusqu'à 18 ans, exigeait que je tienne la main dans la rue pour traverser le passage clouté, enfin, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi là qu'on apprend qu'on est faite pour appartenir à des hommes. Cette espèce de truc aussi où, très ambigu, où mon père disait attention. C'est vrai qu'à la fois mes parents, avec la telle phobie qu'ils avaient que je me fasse violer, parce que je pense qu'ils avaient quand même conscience que c'était hyper courant, et peut-être à juste titre. En tant que violé ou violeur, sait-on jamais. Et ben, il me disait attention aux garçons et tout, et surtout pour les premières expériences, fais vraiment attention avec qui c'est, si tu veux pas, dis non. Et là, je remercie ma mère, et je pense que c'est quelque chose que faut que toutes les femmes se disent. Ma mère, elle m'a toujours dit, mais dès très jeune, pour les relations sexuelles avec des hommes, c'est avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Et je trouve ça hyper important parce que je pense que les femmes, implicitement, elles apprennent que c'est pas avec qui elles veulent, parce qu'elles font l'expérience de ça. C'est pas comme elles veulent, parce que personne ne leur demande comment elles veulent. C'est pas où elles veulent et c'est pas quand elles veulent. Et mine de rien, elles l'intègrent. Et je pense que si c'est pas clair, parce qu'un garçon, c'est clair pour lui que c'est avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Enfin, l'idéal, bien sûr, c'est que les deux, qu'il y a un accord des deux, bien sûr. Mais un garçon, il se dit, si c'est pas comme je veux, avec qui je veux, quand je veux, où je veux, je banderai pas. Une fille, elle a ce truc-là de, même si c'est pas quand je veux, même si c'est pas avec qui je veux, j'ai une espèce de devoir de le faire. Pour être aimée, il va falloir que je le fasse. Bref. Et donc mon père me disait, attention garçon, etc., les premières expériences, nanana, faites attention. Ah oui, pour finir quand même sur l'histoire de mon père. J'en ai discuté avec lui et je lui ai dit qu'il avait eu un comportement irrespectueux. Physiquement vis-à-vis de moi et ma sœur, c'est quand même ma sœur à 17 ans de lui mettre des fessées, hein, c'est quand même assez grave. Et ça l'a beaucoup choqué, et je crois quand il dit ça, il m'a dit mais moi j'ai jamais voulu vous violer, j'ai jamais eu envie qu'il y ait un inceste, ça l'a retourné ce que je lui ai dit, il me dit mais c'est... Enfin, ça lui a fait peur, quoi. Il dit non, mais moi j'ai essayé de faire de mon mieux et j'ai été maladroit, je m'en excuse, enfin... Il disait qu'il a essayé d'être un bon père. Et je lui dis ouais, mais c'est là le drame, quoi. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'était des pères pour nos mères, nos arrière-grand-mères? Qu'est-ce que c'est être un bon père? C'est une catastrophe. C'est quoi ces bons pères? Et moi j'ai répondu ouais. C'est sûr. T'as essayé d'être normal. Mais c'est bien là le drame. Ces espèces de pères normales qui ont leur fille et qui se les approprient. C'est tout à fait courant et normal. Et ça, je pense que finalement, beaucoup de femmes ne se rendent même pas compte de la violence qu'elles vivent, qu'elles intègrent, à quel point ça les aliène intérieurement, ça limite leur capacité, leurs possibilités, et ça produit des inégalités par rapport à ce que vivent les hommes. Tout ça parce que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'on vit, c'est ce que tout le monde vit. Et finalement, c'est aussi une façon de survivre, parce que si on commence à considérer que tout est anormal et qu'on fait rien pour le faire changer, ben ça devient très très dur à vivre. C'est dire, ah ouais, en fait, ce que je vis, et ben, c'est mal, c'est normal, c'est sûr. Mais c'est mal, ça me fait du mal, ça m'aliène. Et ben, soit on se met à déprimer, soit on se révolte.
We have to support women that are raped. We have to empower them to stand up and fight.
No means no.
Rape is rape. If the girl doesn't want to have sex, the bottom line is it's rape.
We have to recognize what role power plays, and we have to learn to communicate.
Yeah.
l'histoire du viol n'est pas finie. Parce que après, donc voilà, les périodes des premières expériences sexuelles. Merveilleux. Alors moi, comme je pense que quand même très tôt c'est quelque chose... Déjà c'était pas tabou dans ma famille, on en parlait. Relativement, enfin un petit peu quoi. Par rapport à toutes les familles où le mot viol n'est absolument jamais prononcé. Ou alors vraiment au journal de 20h, mais c'est toujours très loin, très tabou. Et donc moi comme c'était pas extrêmement tabou, je pense, eh bien, j'ai eu la chance de récolter tous les récits de viol de mes amis. C'est incroyable. Moi je pense que vraiment toutes les statistiques mentent. Parce que pourtant, je fais partie de classe moyenne, comme on dit, enfin de gens relativement aisés, des fils de profs, des filles de profs, et des enfants, machin, qui de milieux, de quartiers bourgeois, et tout ça, où on est censé ne pas être violé. Et où il n'y a pas de violeur, bien sûr. Alors, au collège, pourtant, je connaissais pas 50 personnes, et puis, bien sûr, c'est pas des choses qui se racontent avec des gens que tu connais pas bien, donc parmi mes amis proches, j'en ai environ, c'est-à-dire des filles avec qui on peut parler de choses aussi intimes, même si justement il y a tout un problème dont je parlerai après, et ben, il y en avait 3 qui se sont fait dépuceler par un espèce de petit copain qui les a violées, il y en avait 4 qui avaient été contraintes par leur copain à un moment ou à un autre, 3 qui avaient été violés par des amis de leur père. Voilà, ça c'est pour le lycée-collège. Mais bien sûr, personne ne se rend compte de cette diversité des viols, cette fréquence. Parce que là, vous imaginez, faites le compte parmi vos amis proches. Combien peuvent vous en parler, enfin, moi, parmi mes amis proches, ça fait plus d'une bonne moitié, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait été violée caractéristiquement avant la fin du lycée. Je trouve ça énorme. Mais, et même parmi ces filles qui ont été violées et qui me disent surtout, tu le racontes pas, machin, enfin, qui voulaient pas que ça devienne public, eh ben, finalement, tout était persuadé que presque personne n'avait été violé. Enfin, disons que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui savais que la moitié d'entre elles s'était fait violer. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est intime, de l'ordre de l'intime et tout, et enfin, c'est considéré comme les filles comme une honte, comme une souffrance aussi tellement énorme, et ben, elles n'expriment pas, elles disent pas, c'est pas fait public, c'est pas comme machin, s'est fait casser la gueule, s'est fait casser une dent, le nez, tirer sa voiture, et tout le monde le sait. C'est pas, ouais, hier, je me suis fait serrer par un mec, il m'a tronché dans tous les sens, et quel connard, quoi. Non, ça se dit pas. Donc personne ne le sait. Alors moi, j'avais cette impression de me dire, finalement, d'être la dépositaire de pas mal de trucs que finalement... Les gens se rendaient pas du tout compte de la fréquence que ça avait. Ce qui est aussi assez drôle. Donc il y a eu après la fac, etc., les copines, machin. Donc là, il y a eu encore moult de viols. On m'a expliqué mais ça se compte par dizaines de reprises que me balader la nuit seule, c'est que je voulais me faire violer. Des hommes qui viennent me dire dans la rue. Tu veux te faire violer, salope, à te balader dans la nuit, alors qu'il est, je sais pas, 8h, 10h du soir ou 3h du matin, mais que si je sors, c'est parce que j'ai envie de faire des choses dehors et parce que j'ai envie d'exister au même titre qu'un homme. Enfin, et c'est fou. Et j'ai une copine qui s'est fait violer par 2 mecs, une copine qui s'est fait agresser par un fou, cette même copine, elle est à ça. 4e, elle s'est fait violer une fois et agresser 4 fois. Donc c'est fou. Et je me souviens de la dernière fois où elle a enfin essayer d'aller porter plainte, parce qu'après, bien sûr, les filles ne vont pas porter plainte. Enfin, moi, la plupart de mes copines ne vont pas porter plainte. Celles qui vont porter plainte, elles se font moquer d'elles au commissariat. Moi, j'ai failli étriper un policier qui était sûrement un violeur parmi tant d'autres. Parce que les violeurs ne sont pas des psychopathes, ce sont des hommes normaux qui vous expliquent aussi. Enfin, moi, j'étais frappée dans tous ces récits. Que les mecs, parce qu'on a l'impression de ce truc d'un mec qui contrôle pas, qui se contrôle pas, qui a une espèce de pulsion, qui est meut par sa bite là, qui est en avant, et pas du tout. Les mecs, ils t'expliquent pourquoi ils te violent avant, ils t'expliquent après, ils te culpabilisent, il y a tout un discours. C'est pas des fous du tout, ils sont pas dans des crises psychiatriques, hein. C'est pas des névrosés. Ils sont en effet, au contraire, complètement conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui les fait jouir, c'est pas un plaisir physique. Ce qui les fait jouir, c'est exactement comme le tortionnaire. C'est le pouvoir qu'ils ressentent à ce moment-là de dominer, de torturer. Parce que faut quand même dire que le viol est une torture. Une torture qui... Combien de femmes ont subi cette torture? Alors on parle de la torture en Algérie ou quoi. Mais est-ce qu'on parle de torture, de la torture des femmes, quoi? Et beaucoup d'hommes qui, parce que je suis un homme, parce que je suis plus fort, parce que toi t'es une salope et tu restes pas à ta place, eh ben, je vais te torturer et tu vas voir. Tu vas comprendre que t'es inférieur, tu vas comprendre que je te domine. Et ça, ça me fait jouir. Bref, parmi toutes ces copines qui se sont fait serrer, etc., la plupart veulent pas que j'en parle. Alors, il y a des phénomènes aussi très drôles. Donc, une fois, la dernière fois, donc, j'étais avec une copine, elle a enfin décidé de porter plainte. Et moi, j'étais furieuse quand j'avais encore su qu'elle s'était encore fait agresser. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et donc, moi, j'en parle à des copines, j'arrive, je suis plus à un apéro. Puis je dis, putain, machine, elle s'est encore fait agresser et ça fait chier, bordel de merde, société à la con. Enfin, j'étais très énervée. Et voilà, et donc après, j'ai cette copine au téléphone qui me dit « Mais Hélène, comment t'as pu oser en parler ?» Et elle me dit « Je veux pas que le viol soit quelque chose qui soit constitutif de moi, quoi. » Et là, moi, je me suis excusée parce que, bon, c'est son histoire et je peux pas, bien sûr, le raconter à tout le monde et tout, et c'est pas... Enfin, pour elle, pour sa souffrance, etc., j'étais pas respectueuse. Et je lui dis, mais le viol, c'est pas quelque chose qui est constitutif de toi, c'est quelque chose qui est constitutif de nous, quoi. De nous, les femmes. Ah oui, j'oublie quelque chose. C'est que ce qui est très drôle aussi, c'est que mes copines, j'ai une grosse partie des copines qui me racontent des histoires de viol qui les oublient. Ah, ça, c'est incroyable aussi. Qui parle, moi qui n'ai pas été violée, alors que je sais pertinemment qu'elles savent que c'est faux. Parce qu'elles m'ont raconté des histoires. Ou qui le nient. Par exemple, moi j'ai une copine, elle est allée chez le gynéco après avoir une relation sexuelle avec un homme, elle avait le vagin déchiré. Et la gynéco lui a dit, vous voulez que je fasse une déclaration de viol? Et elle a dit, mais non, j'ai pas été violée. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes vraiment de négation, autonégation, pour pouvoir supporter, je pense, hein. C'est-à-dire qu'on oublie, on fait comme si ça n'existait pas. Pour moi, je pense que je comprends tout à fait ce truc-là, parce que je me dis, c'est dur de vivre avec ça, quoi. Ça empêche de vivre, quoi.
Yeah!
Surtout ce que ça m'a appris, toute cette réflexion, eh ben, c'est que, soi-disant par nature, les femmes auraient moins de désirs que les hommes. Et c'est vrai que c'est un truc qui me posait des questions, de voir que j'avais des copines, effectivement, elles avaient très peu de désirs sexuels. Mais faut pas confondre un effet de culture d'un effet de nature. C'est pas par nature que les femmes, elles ont moins de désirs que les hommes. C'est par culture. Je sais pas si vous avez déjà remarqué que les expressions érotiques des femmes qui commencent à émerger, parce que bien sûr, tout l'érotisme est écrit par les hommes, pour les hommes, sur des fantasmes masculins. Et ben quand, d'un coup, il y a l'émergence d'une littérature érotique écrite par des femmes, d'un cinéma pornographique des femmes, et ben ça... Une littérature est souvent un cinéma extrêmement violent. Je sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que les femmes, elles ont pas moins de désirs parce qu'elles auraient moins d'hormones? Un des énormes freins à vivre justement une sexualité épanouie, c'est que depuis leur plus tendre enfance, par l'héritage de leurs parents, grands-parents, grand-mère, mère, père, grand-père, par la peur qu'on leur donne du viol, cette espèce de loup qui traîne dans le coin, par les expériences, les viols effectifs, par les regards, les menaces perpétuelles, par l'imaginaire des hommes qui nous montrent toujours comme des objets, eh ben, elles se pensent plus comme des sujets de désir. En tout cas, pas pour des hommes. Parce qu'elles savent que, souvent, parce qu'elles en ont l'expérience, avoir de la sexualité avec des hommes, et eh ben ça sera revenir à être un objet de désir. Un objet, et pas un sujet. Un objet pour l'autre. Et pas comme un être humain. Parce qu'on nous fait pas l'amour comme à des êtres humains. On nous fait l'amour comme à des choses. Faire l'amour. On se demande. Et moi, ce que je me demande, c'est après cet entretien, combien d'entre vous, les filles, combien se poseront vraiment la question en quoi le viol de mes grands-mères, de mes amis, de moi petite fille, d'une partie de moi, de mon image de femme, est violé et à quel point ça me touche ou ça me touche pas, ça me révolte, quel point ça me conditionne, ça me limite, ça m'empêche d'être détendue, de faire confiance aux hommes dans les relations sexuelles. Je me demande aussi combien de garçons se diront « Oh là là, Dis donc, ces violeurs qui ne sont jamais moi. Quel salaud! Combien de garçons après cette interview auront le courage de dire « Et moi, est-ce que je suis un violeur ? Et mon frère ? Et mes copains que j'entends parler comme ça, est-ce que c'est des violeurs ? Est-ce que j'ai dénoncé des histoires de viol que j'ai entendues, que j'ai vues, auxquelles j'ai participé, d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que mon père est un violeur ? Est-ce que mon père viole ma mère ? Est-ce que mon grand-père était un violeur ? Comment ? En quoi, moi, j'ai intégré des choses de violeur ? Voilà. J'espère que mon histoire n'a pas paru trop... n'a pas été comme une lamentation. Parce que fondamentalement, moi, ce que je vis, c'est une révolte. C'est pas une lamentation. Le viol, c'est pas un tsunami, quoi, qui nous tombe dessus et... comme si c'était... quelque chose d'inéluctable, de divin, ou je sais pas quoi, une condition inéluctable de... des femmes. Pas du tout. C'est une organisation sociale des choses qui fait en sorte que les gens arrivent à se représenter les choses telles que, eh ben, dans plein de situations, les hommes se sentent tout à fait légitimes de violer, de torturer des femmes. Et que c'est encore extrêmement présent et qu'on se voile énormément la face sur ça. Et ça n'a absolument rien d'intime. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement collectif, ce vécu-là, pour les femmes.
Et oh, dougou tchemi ananga baro. Oh, dougou sunguro ne ananga baro. Et oh, dougou bani dougou ni. Adugu diaba Oh, dugu chame son ananga baro Oh, dugu somora ni ananga baro Eh, oh, dugu bani dugu ni Adugu diaba ananga kota don Demi sanya de sangae, ananga kote don. Gumbemperi donina, adukuma golong kone yamba yamba. Gumbebaru donika, adukuma golong kone chamba chamba.
Gumbe nyala donina,
yana. Adega de nyama famu Adugu mani da jom Adugu ko besiru Adugu mani menga beru Uluko kone mani chane
Nema tinye
Adugu kalange beli de yamba yamba
Nema tinye
Adugu kodom beli de yamba chamba
Nema tinye
Adugu tungoro ba Yala yala, sambara sama be mina fuseni la,
basam samo,
o be mina la sinela, ajeni sawari nesi samo,
yini mojuhu,
ey, adugu yamba yamba, adugu kamalemba u, ulude chakumba chakumba ye, sute wi katama tama ulida kasumako, alide ni mani. L'homme sapiens, sapiens, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Orient, l'Amérique, qu'un imbéniadon,
o perro tu vole manincane con te a te no
yes a pa manincio a nanda con te tu a joke ka toro mi ga ni nie ne venga potedo ni nata potedo ne venga potedo
Dégenrer l'émission pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
On vient d'écouter un morceau de Rokia Traoré qui s'appelle Côté Don. Et c'est un appel aux jeunes femmes à la révolte. Et comme quoi, il n'y a pas qu'en France ou en Occident que des femmes se révoltent contre les violences qui leur sont faites.
Oui, c'est une très jolie chanson, une très bonne chanteuse. On n'écoute pas souvent à Dégenrer, ça fait du bien. Voilà, on a écouté tous les enregistrements, le montage final des enregistrements que t'as fait, Nicolène, donc avec tout ce que t'avais à dire, tout ce que tu voulais dire. Moi, ma première réaction après avoir entendu tout ça, c'est la colère, évidemment. Enfin, heureusement, j'en suis assez contente de cette colère. Non, c'est vraiment une colère qui, je trouve, parce que je trouve que ce qui ressort le plus pour moi de ces enregistrements, c'est vraiment la présence continue, implicite, partout, totale. Enfin, j'ai vraiment cette idée de présence...
Ouais, durant toute la vie. Hein.
Ouais, tout le temps, de la violence, enfin des violences. Et à quel point ça m'a vraiment fait venir cette pensée qu'on est vraiment imprégné, impliqué, complètement construit et construite. Vraiment, chacun et chacune d'entre nous dans ce système de violence. C'est ce que tu dis quand tu parles de d'héritage de violeurs et de violés. Enfin, c'est vraiment ça. Mais et moi, ça me met en colère quand je me réalise à quel point on est construite les femmes de façon générale comme étant des êtres à violer, quoi. Enfin, vraiment. Et les mecs comme des êtres violeurs, quoi. Enfin, ça me parce que comme si c'était une fatalité, quoi. Comme si on pouvait pas changer et tout. Et vraiment, quand on entend tes histoires ou avec tes copines et tout, moi, c'est le pire. C'est vraiment toutes ces histoires de copines, alors toutes et tout. Ça me... Vraiment, je... Enfin, au-delà de la... Oui, de l'émotion que ça me fait, ça me met vraiment en colère, quoi, je trouve. Ce truc de construction, vraiment des rôles qu'on a et tout, c'est...
Ouais, et pour finir cette émission, on avait vachement envie de vous parler des différents moyens de lutter contre ces violences, parce que justement, enfin, j'espère que dans ces témoignages, eh ben, on ressent bien que tout ça, c'est des constructions culturelles. C'est une façon, c'est une culture qui est donc changeable et il y a plein de moyens de lutter contre ça. Et il y a eu plein de moyens, des femmes, de très très nombreuses femmes ont déjà lutté contre les violences sexuelles et je pense qu'il y a eu des améliorations déjà par rapport à ça. Et alors, moi, le premier moyen dont je voulais parler, qui me semble vraiment le plus important, c'est l'éducation. C'est-à-dire on manque des jeunes d'éducation sexuelle. Et qu'est-ce que c'est l'éducation sexuelle ? Pour moi, c'est une façon de parler des différentes formes de sexualité et de respect dans la sexualité aux jeunes garçons comme aux jeunes filles. Parce que, enfin, moi, je vois des jeunes garçons qui grandissent dans notre société par rapport aux images érotiques, que ce soit dans les films pornographiques ou
même dans les films classiques, les films qui passent à la télé. Excuse-moi, je te coupe sur ce sujet-là. C'est qu'on a tendance à toujours parler de la pornographie. C'est une chose, mais moi, quand je vois les films hollywoodiens, les films qui passent sur TF1 à 20h30, les représentations sexuelles, qui sont évidemment très soft, enfin, je veux dire, oui, on voit pas de pénis, on voit pas de vagin, on voit pas de vulve, on voit pas, on n'a pas de plan génital comme dans un film pornographique, mais on a quoi ? On a une image d'un mec qui pénètre une fille, quoi. C'est comme ça qu'est représentée la sexualité.
Avec une fille passive et puis un mec actif.
C'est comme ça qu'est représentée la sexualité dans les films. Et ça, mais si ça construit pas des comportements généraux des garçons, des hommes et des femmes. Ouais,
voilà.
C'est ça. Plus que la pornographie, moi, vraiment, je pense.
Et franchement, moi, je pense qu'on devrait donner une information complète, justement, par exemple, aux filles, à leur apprendre à se masturber, à savoir comment elles peuvent prendre du plaisir et du coup, comment elles peuvent demander à leur partenaire, qu'il soit fille ou garçon, à leur donner du plaisir, à trouver les mille et une façons et pas forcément par la pénétration. Enfin, il y a énormément de choses où si on a suffisamment d'informations et de connaissances de son propre corps, de connaissances aussi qu'on peut dire non, de connaître nos propres désirs, et ben là, à mon avis, déjà, il y aura une grande partie des violences sexuelles qui vont être évitées. Qui peuvent être évitées et aussi pour du point de vue des garçons de savoir parce qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui commencent une carrière finalement de violeurs dans leur conjugalité parce que ils pensent que ce qu'il faut faire pour être un homme c'est bander, pénétrer longtemps et de façon violente quoi et c'est assez dramatique du point de vue de l'épanouissement de tout le monde hein. Enfin c'est dramatique surtout pour les femmes mais aussi du point de vue de tout le monde quoi. Et alors voilà, ça c'est un premier moyen qui me semble le plus essentiel, c'est l'éducation sexuelle.
C'est d'en parler quoi, de parler de sexualité, enfin l'éducation sexuelle, c'est pas que à l'école quoi, c'est je trouve là dans le monde parler de sexualité vraiment quoi, sur ce que ça représente, de doutes, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime pas, ce dont on a peur. Parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais de ça.
Ouais, de l'enjeu aussi, de la peur d'être normal, de la peur de pas être aimé si on refuse des rapports sexuels, mais que ce soit avec son petit copain, mais aussi dans la famille. Enfin, c'est très très présent, quoi, dans nos vécus. Et comme on est dans une société de la performance, on doit toujours finalement nier tous nos doutes, tous nos peurs, et c'est un peu là-dedans que naissent des rapports violents.
Oui, aussi, ce que je voulais dire, c'est que pour être bien comprise, là, quand on parle de ces histoires, de ce qu'on peut faire comme réaction pour éviter les agressions sexuelles, c'est bien qu'on prend en compte la donnée que l'immense majorité des agressions sexuelles et des viols au sens où de relations sexuelles non voulues se passent dans le cadre conjugal de couple avec son petit copain ou avec un homme qui est connu.
80% voilà. des viols déclarés la violée connaît son violeur, hein, connaît l'identité de son violeur.
Et c'est important de rappeler ça pour bien comprendre que ça c'est évitable, qu'on parle pas d'agression dans la rue, ce qui est autre chose et tout autant, enfin. Ce qui est aussi évitable et ce qui est aussi immensément condamnable vu les souffrances que ça fait chez. Je suis maladroite, pardon. Mais c'était important pour moi de préciser ça parce que aussi. si on connaît son corps, si on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, si on sait, mais si on le sait vraiment, si on est sûr de soi, qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas dans notre sexualité, on se protège mieux on est plus capable de dire aussi à notre petite amie, à notre compagnon, que tel type de sexualité, on n'en a pas envie et que tel type, c'est ça dont on a envie. Et c'est ça qui est important aussi. Et après, on est encore plus capable aussi, je pense, quand on est dans ce système-là de reconnaissance de son plaisir à soi et de respect de soi-même, on est aussi encore plus capable, dans la rue, de dire non.
Ouais. Et ça, c'était le deuxième moyen dont je voulais vous parler. C'est aussi qu'il faut absolument apprendre aux jeunes filles à se défendre elles-mêmes. Et alors pour ça, il y a plein de moyens d'autodéfense. Déjà, donc, apprendre aux petites filles à dire non, aux petits garçons aussi à respecter les noms des petites filles, parce que c'est la première étape. Mais aussi, souvent, on permet aux garçons de développer leur force physique et de se battre et d'apprendre à se battre. Et ben, il faut que les petites filles l'apprennent aussi, alors qu'on a tendance à les limiter. Et voilà, il faut apprendre aussi aux filles et apprendre soi aussi à trouver les moyens physiques et psychologiques de se défendre et de considérer que son corps c'est quelque chose de précieux et que personne n'a à tirer du profit de son corps alors que t'es pas d'accord quoi. Et ça passe par une posture physique, ça passe par le fait de dire non, mais ça passe aussi parfois par le fait de pouvoir crier. Crier, c'est quand même un des meilleurs moyens d'autodéfense. Crier et frapper, quoi, aussi frapper, parce qu'on est tout à fait capable de frapper. Et la fille, même la plus faible, a le moyen de casser un nez avec la force physique qu'elle a le moyen de frapper et de se défendre. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on dit très très peu, c'est que, pareil, parmi les agressions sexuelles qui sont déclarées, une immense majorité des femmes qui se sont défendues, mais qui ont décidé de se défendre jusqu'au bout, n'ont pas été violées dans le sens pénétré, quoi. Et ça, on en parle très peu. Et aussi l'autre chose dont on parle peu, c'est que les femmes qui ont été agressées et qui se sont défendues, contrairement aux conseils qu'on a pu lire dans des manuels de police qui disaient si vous vous faites violer, laissez-vous faire, attendez que ça passe. Et ben c'est que les femmes qui sont défendues, même si elles ont été violées, agressées, et ben psychologiquement elles ont beaucoup plus de facilité à s'en remettre. Et ça c'est important parce qu'on c'est pas quelque chose qui est forcément su non plus. Que oui, on a le droit de se défendre jusqu'au bout quoi. Hein. Mm. Et de quelque manière que ça soit. Et oui, et du coup pour l'autodéfense, on voulait vous dire qu'il y a des stages d'autodéfense qui sont organisés sur Grenoble. Et si vous voulez savoir les dates des stages d'autodéfense, vous pouvez écrire à Dégenré.
Oui, parce que nous, on pourra transmettre les informations des stages. Alors, l'adresse email de Dégenré, c'est Dégenré, ça s'écrit Dégenree, sans accent, @boum.org. Et c'est aussi possible de nous écrire à Radio Kaléidoscope, je profite pour dire ça aussi, pour des retours, pour nous dire ce que vous avez pensé, pour n'importe quoi, vous avez envie de nous dire des choses, et ben vous pouvez nous écrire, donc soit sur le mail dégenré@boum.org, soit en nous écrivant par voie postale à Radio Kaléidoscope, BP 422, 38018, Grenoble, CEDEX 1. Et vraiment, on est tout à fait ouverte à des retours sur le travail qu'on fait au sein de Dégenré.
Et aussi, enfin, pour continuer sur les moyens de lutter contre les violences sexuelles, il y en a beaucoup. Hein, alors, on est un peu submergé et l'émission est bientôt finie. Mais il y a un moyen qui me semble très très important pour moi, c'est que quand on a été victime d'une agression ou qu'on a mal vécu un rapport sexuel, mais de quelque type que ça soit, eh ben, il faut réagir, quoi. Il faut le dire, si c'est possible à la personne, c'est-à-dire pouvoir lui dire tu m'as agressé, tu m'as fait mal, je suis pas d'accord, j'en souffre. Ou se venger aussi. Enfin, moi, je suis pas contre des vengeances de différents types qui peuvent être violentes. Enfin, faut pas non plus faire dans l'angélisme. Et aussi trouver des gens à qui on peut en parler et qui peuvent réagir positivement avec nous.
Et moi, par rapport à ce que tu dis, Nicolène, enfin, t'as tout à fait raison. Mais j'ai aussi envie de dire que pour pouvoir en parler, il faut aussi que les gens autour de nous, ils veulent bien qu'on en parle. Enfin, je suis complètement d'accord avec la façon dont tu le dis. C'est juste que là, on s'adresse à toutes les femmes qui potentiellement peuvent se reconnaître comme agressées. Et évidemment, vous pouvez réagir. Vous avez le droit, mais total, de réagir et la légitimité totale. Mais c'est juste la petite nuance pour ne pas tomber dans la culpabilisation. Parce que moi aussi, je veux bien comprendre qu'on se taise quand on est dans un environnement où, de toute façon, personne n'a envie qu'on le dise.
Ah, mais c'est sûr.
Et c'est aussi la responsabilité des environnements, de nous, de chacun d'entre nous qui vivons avec des gens, d'être là pour pouvoir aussi entendre ces vérités-là, et d'être prêt et d'accepter qu'elles existent. Et de pas se mentir et de pas dire que ça n'existe pas. Et quand on entend des histoires comme ça, et ben de pas faire comme si on les avait pas entendues. Et ça, je trouve ça hyper important. Et l'autre chose que j'avais vraiment envie de dire, c'est dans la même veine que cette histoire de culpabilisation et qui pour moi qui peut être en lien avec un truc de victimisation. Je crois que je veux bien parler. Alors évidemment, on est victime d'agression sexuelle. Pour moi, on est aussi survivante d'agression sexuelle, et je trouve ça très important parce que je pense que là, j'ai envie de dire toutes les femmes, alors bon, pour vu que j'en sais rien, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié, je pense vraiment l'immense majorité des femmes, nous sommes des survivantes d'agression sexuelle de tout type, et moi je trouve ça hallucinant quand je discute avec, quand je vois moi ma vie, quand je discute avec des amis, quand je discute avec des femmes, de voir à quel point aussi les femmes sont fortes, et c'est pas essentialiste de dire ça pour moi, c'est aussi parce que... Mais bordel, on est super forte de réussir à vivre nos vies, à continuer à vivre nos vies après avoir vécu des choses telles qu'on les a vécues, quoi. Et après avoir engrangé tellement de violence, quoi. Et cette force-là, j'ai aussi envie de la dire ce soir et de la nommer, quoi. Et elle est importante et j'ai envie de la reconnaître. Alors après, et j'ai envie qu'elle rebondisse et qu'on puisse en faire vraiment quelque chose, une force collective, quoi. C'est ça qui serait...
Voilà. Ouais, et aussi, enfin, moi, ce que j'avais envie de reconnaître, c'est tout le travail aussi qu'ont fait les féministes depuis, on va dire plus d'un siècle et demi, et surtout depuis 30 ans, là, ça a été quand même des mouvements très forts et qui font que collectivement, les choses commencent à bouger parce que justement, il y a une parole féministe, une parole des femmes sur ces violences qui les nomment, qui les contestent et qui réagissent et qui font des moyens de réagir. Enfin, les lois qui criminalisent le viol, c'est très très récent Et voilà, et le viol conjugal, c'était pas reconnu il y a 30 ans. Et voilà, et moi, j'ai envie de continuer cette lutte parce qu'elle n'est pas gagnée. Et je pense que c'est par des moyens d'expression individuelle et collectif, qu'ils soient violents ou pas, que les choses vont changer. Que les filles vont cesser de vivre ce régime de terreur sexuelle, quoi.
Alors c'est important de donner les contacts, ouais, aussi, parce qu'on va, on vous laisse pas comme ça sans rien. Il y a des associations, quand on parle des féministes, des femmes qui luttent contre le viol, il y a des associations qui travaillent spécifiquement sur ces questions-là d'agression sexuelle, d'agression conjugale dans le cadre du couple et tout ça. Elles font un travail formidable. Elles sont là pour accueillir les femmes et du coup on vous donne le contact à Grenoble.
Alors à Grenoble, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr le planning familial, où on peut passer sans rendez-vous pour parler, pour tout ce qu'on veut. On est quand même assez bien accompagné. Il y a pas mal d'infos là-bas.
Alors, notamment pour des questions de contraception, d'IVG, parce qu'évidemment, ouais, ça peut de contamination VIH, les IST, le sida, les hépatites, c'est important. Ça peut,
ouais,
être important d'aller au planning.
Qui sont formés et qui vous accueillent bien. Alors c'est 04 76 87 94 61 et c'est au 30 boulevard Gambetta à Grenoble. Par rapport aussi au dépôt de plainte, moi je voulais juste dire aussi le dépôt de plainte en police, c'est très très important d'être accompagné soit par des amis, des copines, de la famille, ou alors par des femmes qui sont spécialisées là-dedans, des femmes du planning, ou alors par exemple de Solidarité Femmes, c'est une association qui conseille sur les démarches à suivre en cas de violence contre les femmes et notamment de violence sexuelle. Alors on peut aller à Solidarité Femmes au 6 Galerie de l'Arlequin, à 38 100 Grenoble. Alors c'est ouvert le mardi et le jeudi de 13h à 17h sans rendez-vous.
C'est des permanences, voilà.
Ouais, c'est des permanences. Alors on peut y aller quand on veut. C'est aux 6 Galeries de l'Arlequin. Et tous les autres jours, sur rendez-vous, on peut consulter quelqu'un qui peut nous aider dans les démarches. Et c'est, ça peut être bien aussi d'être accompagné par quelqu'un qui connaît ces problématiques. Et voilà.
Alors, donne le numéro de téléphone, peut-être.
Ouais, c'est 04 76 40 50 10. Et enfin, on voulait donner le numéro de SOS Viol, qui est un numéro national. C'est 0800 05 95 95.
Voilà, alors on va être obligé de terminer notre émission. Les gens de l'émission d'après sont déjà là et nous attendent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Juste une info pour Grenoble, mardi soir à 19h à la Mazurka, 7 rue de la Gaîté à Fontaine, il y a un spectacle non mixte qui s'appelle Les Monologues du Vagin, spectacle discussion bouffe, une adaptation très libre autour de ces textes.
Pour parler de sexualité, pour en parler encore et enfin, et en discuter entre nous.
Après.
Voilà, donc c'est mardi prochain à 19h, 7 rue de la Gaîté à Fontaine, l'arrêt de tram Les Fontaines à Fontaine. La prochaine émission des genrés, c'est le mercredi 12 avril. Cette émission-là que vous venez d'entendre est rediffusée lundi prochain à 19h. Bonne soirée, merci.
Bonne soirée.